Merci, Dom. Je veux juste à dire, en passant, on est encore jeune. Okay, c'est pas quand on était, comme tu penses, il y a 20 ans. 25 ans, quand même. Très content d'être ici ce soir. Comme disait Dom, moi, je suis pasteur à Impact Jeunesse. On chantait « Jésus, je te suivrai », c'est l'album d'Impact. Moi, je suis pasteur à la jeunesse là-bas, comme assistant pasteur. Et ça fait 2 ans de ça. Et comme Dom disait, j'ai repris contact avec lui peut-être un an. On s'est vu l'année dernière. Il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts depuis notre le temps qu'on couchait chez l'un et chez l'autre. Mais je suis vraiment content d'être ici. Moi, je venais à cette église-là. J'avais entre 7 et 11 ans à peu près. Je venais ici. J'habitais à Gatineau pendant à peu près 4 ans. C'était mon église. Donc, pour moi, c'est vraiment un retour aux sources. Si on m'avait dit que quand j'avais 7 à 11 ans que j'allais prêcher ici un jour, j'aurais probablement jamais cru ça. Mais regardez ce que Dieu peut faire. Moi, je suis ici ce soir. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a quelques-uns que je connais ce soir. Ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis pasteur. Je suis marié depuis bientôt 2 ans. Cet été, ça va faire 2 ans que je suis marié avec Valérie, qui m'a enduré jusqu'à maintenant. On peut l'applaudir. On attend une petite fille pour le mois de juillet, une petite princesse qui s'en vient. Je viens de terminer mon collège biblique. Donc, en ce moment, ceux qui sont en fin de session, moi, c'est la première fois en 20 ans que je ne suis pas à l'école cette session-ci. Donc, c'est vraiment cool. Mais ceux qui ont bientôt fini, ça finit cette semaine ou la semaine prochaine, bon courage. Moi, j'ai fini mon collège biblique au mois de décembre et je suis impliqué à l'Église Nouvelle Vie avec la jeunesse. Et quand Dom m'a contacté il y a quelques semaines pour la soirée de ce soir, il m'a tout de suite demandé si j'avais à cœur de partager sur ce qui, moi, occupe la majeure partie de mon temps, qui est Marque ta génération, qui est un ministère. Je tiens à dire d'emblée que c'est pas un organisme, c'est vraiment un ministère de l'Église. Puis lorsqu'on se présente, je vais en parler tantôt, mais lorsqu'on cogne aux portes, lorsqu'on parle avec des partenaires, lorsqu'on parle avec des autorités de la ville ou tout ça, ils savent qu'on est chrétien, ils savent qu'on est l'Église. Donc, Marque ta génération, c'est un ministère qu'on a fondé il y a bientôt 3 ans, et puis qui a connu, avec toute une équipe, qui a connu un essor. Puis c'est une joie pour moi de pouvoir vous parler ce soir. Il y a une photo qui va apparaître, la première photo qu'on a mis au PowerPoint, qui, ça, c'est notre première photo officielle où on a fait une activité pour aller nourrir des itinérants il y a 3 ans. Okay, donc, ça, c'est la première photo. J'ai réussi à la sortir des boulamites. Et puis, moi, c'est ce que je consacre ma vie à. Marque ta génération, c'est un nom qu'on lui a donné, mais c'est un groupe de jeunes adultes qui sont issus de l'Église Nouvelle Vie à Impact, mais également de d'autres églises de la région. Donc, c'est vraiment un ministère qui rejoint les 18-35. Et puis, notre vision peut se résumer comme ça. C'est d'aller là où personne va pour rejoindre ceux que tout le monde oublie. Et c'est ce qui est notre cœur, puis c'est ce qu'on essaie de faire et d'accomplir au nom de Jésus. C'est ce qu'on essaie de faire depuis maintenant bientôt 3 ans. Et concrètement, parce que là, je peux parler de Marque ta génération, je peux dire c'est pour les démunis, mais concrètement, aujourd'hui, ce qu'on fait, nous, c'est on veut rejoindre les jeunes de la DPJ. Pendant les 2 premières années de Marque ta génération, on a fait diverses activités pour essayer de rejoindre les pauvres. Parce qu'au Québec, je vais en parler tantôt. Au Québec, ce qui arrive, c'est que la pauvreté n'est pas aussi visible que si on allait en Afrique, si on allait en Haïti. Pour ceux qui ont déjà fait des voyages missionnaires, que ce soit même dans le nord du Québec ou dans les réserves autochtones, il y a une pauvreté qui est là, qui est très visible. Mais si on est plus dans les régions comme ici, comme à Montréal et Longueuil, pour nous, ben c'est pas aussi visible. Et pendant les 2 premières années, ce qu'on faisait, c'est un peu comme ça. On ramassait une gang de jeunes. Au début, on était une quinzaine de jeunes qui faisaient ça. On n'avait pas de budget, on n'avait rien. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on sollicitait les épiceries, on sollicitait des restaurants. On leur disait, si vous avez des surplus de nourriture, si vous avez de la nourriture qui va être passée date bientôt, ben nous, on est preneurs. On va aller la distribuer aux itinérants, au centre-ville. Et puis, on a commencé à faire ça. Puis c'est comme ça que Marque ta génération est née. C'était très humblement. On n'avait pas de budget, on n'avait rien. On n'avait pas de local, on n'avait absolument rien. Puis on avait juste une vision et un cœur de vouloir représenter Dieu pour ces gens-là. Et puis, ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, ce qui est arrivé, c'est que de 15, on est devenu 20, 30, 40, 50, et jusqu'à plus qu'une centaine de jeunes dans la première année qui ont commencé à vouloir s'impliquer dans la cause. C'était un bon problème, mais ça restait un problème. Parce qu'aller distribuer de la nourriture aux itinérants à Montréal à 100 jeunes, c'est pas si simple que ça. Et donc, tout ça nous a forcé à chercher la face de Dieu, à chercher une direction de comment on peut répondre aux besoins qui sont autour de nous, mais avec un groupe de jeunes tellement enthousiastes. Parce qu'à 100 personnes, on peut pas juste s'en aller comme ça puis donner de la nourriture. Ça prenait une structure plus importante. Et puis, cette année, à partir de cette année, ce qu'on a fait, c'est que de la rue, on a passé à nourrir les itinérants et de ça, un organisme maintenant qui le fait à chaque semaine. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on dessert plus les jeunes de la DPJ. Une des choses qu'on a remarqué, c'est que nous, on est des jeunes, jeunes adultes. Tout le monde ici dans cette salle, on est tous jeunes. Et lorsqu'on parlait avec des itinérants, lorsqu'on parlait avec des gens qui sont dans une pauvreté qui est à un niveau assez sérieux, on réalisait qu'on n'avait pas beaucoup de ressources concrètes pour eux. On était là, on parlait avec eux, on priait avec eux, on leur donnait de la nourriture, on répondait du mieux qu'on pouvait à leurs besoins physiques. Mais ce qui était difficile, c'est qu'on n'avait pas de bâtisse pour les héberger, pour les aider, c'est quoi la prochaine étape pour toi? C'est un emploi? On n'avait pas ces ressources-là. Et ce qu'on a fait, c'est que d'autres organismes ont pris la relève de ce qu'on faisait. Et on s'est dit, en tant que jeune, Seigneur, qu'est-ce que nous, on peut faire? Comment est-ce qu'on peut vraiment changer la vie des gens pour toi, mais concrètement? Puis on est jeune, puis on n'a pas de ressources. Et puis ce qu'on a réalisé, c'est que les jeunes de la DPJ nous écoutaient plus que n'importe qui. Parce qu'on était jeunes. C'était notre meilleur atout. Autant que c'était notre pire ennemi parce que personne ne nous prenait au sérieux dans tout ce qu'on faisait. Mais l'autre côté, c'est que les jeunes de la DPJ nous écoutaient. On avait une influence sur eux. Et depuis cette année, notre prière, c'était de s'investir auprès des jeunes de la DPJ. Mais ça, c'était un immense pas de foi parce que on rentre pas dans le cercle de la DPJ aussi facilement quand on représente l'Église. Aujourd'hui, on entend parler presque à tous les jours là, de la religion puis de comment l'État essaie de séparer tout ce qui est de l'État et de la religion. Eh bien, nous, on croyait vraiment dans notre cœur que c'était la direction que Dieu voulait qu'on prenne et qu'on s'investisse, qu'on focus sur les jeunes de la DPJ. Et puis, pour faire une longue histoire courte, parce que j'ai entre 30 et 40 minutes, moi, je pourrais en parler pendant 2 heures ce soir. Je pense pas que vous allez m'entendre pendant 2 heures. Hein? Je pense qu'on va passer à autre chose après. Mais pour faire une longue histoire courte, ce qui est arrivé, on a cogné aux portes de la DPJ, on a réussi à avoir un entretien avec la directrice générale de tous les centres jeunesse de la Montérégie. On lui a expliqué qui on était. On était des croyants, qu'on est l'Église. Et puis, voici ce qu'on veut faire. On veut s'investir dans les jeunes. On a une centaine et plus de jeunes bénévoles qui ont envie de servir les jeunes de la DPJ. Comment on peut le faire? Et puis, miraculeusement, les portes se sont ouvertes. Ils nous ont laissé entrer dans le cercle de la DPJ. Et on a eu accès à un premier centre qui a eu lieu l'année dernière. Et à toutes les semaines, on sert des jeunes de ces deux centres-là. Il y a des gars qui vont jouer au hockey avec eux. Et il y a des ateliers après avec eux. On a des temps avec eux. On a rénové deux centres l'année dernière, complètement. Des centres jeunesse qui n'étaient pas insalubres, mais qui étaient extrêmement vieux. C'est des vieux bâtiments avec des vieux meubles, avec du vieux matériel. Et nous, ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a rénové au complet deux centres jeunesse. Et évidemment, le but de Marque ta génération, c'est pas de rénover des centres, mettre de la peinture sur des murs, mais c'est d'avoir accès aux jeunes, de pouvoir les influencer dans ce que nous, on croit être la vérité avec ce que Jésus a fait pour eux. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on bâtit des partenariats avec la DPJ, puis je vais vous en parler tantôt. Et c'est vraiment un ministère de l'Église, dans le sens que la DPJ, autant que c'est un ministère pour moi, mais savent complètement qu'on est l'Église, mais nous ouvrent leurs portes encore plus grande cette année. Depuis l'année dernière, parce qu'on a rénové 200. Cette année, on a un projet avec eux qu'on s'est assis ensemble avec en début d'année, janvier-février. Et on a un projet. Ils nous ont partagé tous leurs besoins. Et on a un projet cette année qui dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Lorsqu'on remonte la photo qui est juste là, avec nos petites bottes à lunch, puis on allait dans le centre-ville, on n'osait pas s'imaginer que cette année, la DPJ allait nous demander si on pouvait faire plus. Si on pouvait plus être dans les centres. Et il y a un projet cette année qui va avoir lieu d'une grande rénovation de terrain, un terrain extérieur, où il y a 6 centres jeunesse qui bénéficient de ce terrain-là. Donc, il faut comprendre que les jeunes de ces centres-là, les seules fois qu'ils peuvent sortir, c'est dans ce terrain-là qu'ils vont. Et le terrain est complètement désuet, complètement les balançoires ne balancent même plus. Il n'y a aucune installation. Et nous, cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va investir au-delà de 10 000 $ de l'argent de jeunes qui donnent. On n'a aucun budget qui nous est attribué de ça. C'est simplement des jeunes qui contribuent à la cause. Et on va investir plus de 10 000 $ dans ce terrain-là. Et le miracle de la chose, c'est que de faire le terrain, c'est une chose. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les jeunes. On va avoir accès aux gens. Et la DPJ nous a ouvert la porte de ces 6 centres-là. Où est-ce qu'on va pouvoir aller parler aux jeunes? Où est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir avec eux, bâtir des relations avec eux? Et donc, pour ça, nous, on est vraiment, vraiment, vraiment reconnaissants envers Dieu. Et la question, c'est pourquoi faire tout ça? Pourquoi tous ces efforts-là? Pourquoi tous les efforts pour des jeunes de la DPJ? Pourquoi faire des choses comme ça? Pourquoi aller dans le centre-ville? Pourquoi pas juste inviter les gens à l'église comme on fait ce soir? Pourquoi est-ce qu'il faudrait faire ça? Et c'est ça la question, en fait. C'est des heures innombrables d'organiser ça. Personne n'est payé sur le staff de Marque de la Génération. Tout le monde fait ça bénévolement. C'est des soirs, c'est des soirées de prière. Lorsqu'on prie pour ça, c'est des temps où ça ne va pas toujours bien. Il faut qu'on trouve des solutions. On n'a pas beaucoup de budget. Pourquoi on fait ça? Et ce soir, je vais essayer de vous répondre à cette question-là. Pourquoi se préoccuper des pauvres? Pourquoi faire ça? Pourquoi on ne peut pas juste les inviter à venir ici puis ils vont entendre le message? Et pourquoi faudrait sortir puis s'en occuper? C'est une bonne question. Laissez-moi vous dire une chose ce soir, c'est que moi, quand je lis ma Bible, d'un couvert à l'autre, je vois un Dieu de justice. Je vois un Dieu qui se préoccupe des pauvres. D'un couvert à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Lorsque moi, je lis ma Bible, je ne peux pas passer à côté. On ne peut pas juste lire notre Bible puis passer à côté de ça. Parce que dans la Bible, c'est plus de 2000 fois où on va lire un des versets qui ont rapport avec la justice de Dieu. Où ce que Dieu va parler de la veuve, où ce que Dieu va parler de l'orphelin, où ce que Dieu va parler de l'étranger, du pauvre. Plus de 2000 fois dans nos Bibles, Dieu en parle. Et ce n'est pas seulement quelques versets, ce n'est pas quelque chose de nouveau ce soir. Puis pour moi, c'est pas comme, je ne pense pas avoir une nouvelle révélation. Je pense que c'est là depuis le début. Et bien pourquoi le faire? Dans la Bible, on retrouve tout le temps, comme je disais, il y a quatre groupes de personnes qu'on retrouve toujours. Il y a le pauvre qui revient, la veuve, l'orphelin et l'étranger. Parce que Dieu parle des gens qui sont dans le besoin. Partout, quand vous allez lire, vous allez souvent retrouver ces quatre groupes-là. Et lorsqu'on lit ça, ce n'est pas seulement dans le temps biblique. Le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger, ce n'est pas simplement dans la Bible que ça se retrouve. Ce n'est pas juste dans le contexte. On pourrait étudier le contexte des Écritures puis de voir que non, ce n'est pas juste dans le contexte. Ce n'est pas juste ailleurs dans le monde. Lorsqu'on parle des gens dans le besoin, la veuve, l'orphelin, le pauvre, l'étranger, ce n'est pas juste en Afrique qu'il y en a. Ce n'est pas juste en Haïti. Ce n'est pas déconnecté de notre réalité du tout. Au contraire, c'est une réalité qui est complètement ici au Québec en 2015. Complètement. J'ai quelques chiffres pour vous. Vous savez, nous, notre vision est de représenter Christ pour ces jeunes-là à la DPJ, représenter son Église, qui est nous, pour les jeunes. Et quelques chiffres de la DPJ ici au Québec. Si jamais vous avez des doutes, qu'il n'y a pas de pauvreté au Québec, voici quelques chiffres. En 2013, le nombre de signalements qui a été fait à la DPJ, ça veut dire qu'un enfant qui a été abusé, ça veut dire que c'est un enfant qui a été mis dehors, ça veut dire qu'il y a un enfant qui a été violenté. 80 540 en un an. C'est plus de 221 signalements par jour de jeunes de notre province à nous. Qui a des signalements à la DPJ. Plus de 221 par jour. Est-ce que vous saviez que les jeunes qui sont à la DPJ, les jeunes filles, si on parle juste des jeunes filles de 14-17 ans, plus de 50% d'entre elles ont fait une tentative de suicide dans un centre jeunesse. Plus de la moitié. 70% des jeunes, gars et filles, qui se retrouvent dans les centres jeunesse ont été victimes d'abus, soit physiques, soit sexuels. Et ça ici, je ne parle pas de l'Afrique, je ne parle pas de l'Inde, je ne parle pas d'un pays à l'autre bout du monde. On parle ici à Gatineau, on parle de chez moi à Longueuil, on parle de partout dans notre province. C'est ici, chez nous. Donc pour moi, quand je lis ma Bible, lorsque je vois Dieu qui nous parle de l'orphelin, lorsque je vois Dieu qui me parle de la veuve, on ne peut plus juste lire ces mots-là, puis passer, puis tourner notre page. Ces gens-là sont autour de nous, dans notre province, aujourd'hui. J'ai vu récemment un article qui est passé dans le Journal de Montréal et sur TVA. D'un docteur qui s'appelait Yves Lambert. Et moi, je suis tombé à terre quand j'ai lu ça, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, voici ce que lui a dit dans l'article. Un médecin qui est un médecin pour la DPJ. Voici ce qu'il dit. Dans une unité spéciale du centre jeunesse de la Montérégie, qui compte 13 adolescentes, donc dans un centre jeunesse particulier où il y a 13 filles, 10 d'entre elles prennent des médicaments quotidiennement. Et certaines ont parfois des comportements destructeurs. Avaler des lames de rasoir, manger des batteries, avaler des trombones, des disques durs, n'importe quoi qui s'avale pour se faire du mal. Depuis 6 ans, ce médecin-là, Yves Lambert, suit une adolescente qui a été abandonnée. Voici ce qu'il dit. Quand elle est arrivée, elle pesait 36 livres à 11 ans. 36 livres! Elle mesurait 1 mètre 9 centimètres. se souvient le docteur Lambert. Quand elle va quitter le centre de jeunesse dans un an, elle quitte dans quelques mois, là. L'article remonte à quelques semaines. Elle n'aura plus le droit à ses services et risque, comme plusieurs d'entre eux, d'être confrontée à l'itinérance et la prostitution. Donc, cette jeune fille-là, qui a un comportement destructeur, qui n'a aucune ressource, surtout qu'elle sort dans quelques mois, c'est terminé. La DPJ ne s'en occupe plus, il n'y a plus de suivi médical. Cette fille-là se retrouve face à l'itinérance, la prostitution. Leur seule référence, quand ils ne se sentent pas bien, c'est l'urgence à l'hôpital. Problème toxique, problème de santé mentale, tentative de suicide. C'est le tiers de nos filles qui ont fait une tentative de suicide dans la dernière année, regrette Yves Lambert. Et moi, pourquoi je suis tombé à terre quand j'ai lu ça? C'est parce que ce centre-là dans lequel il parle, avec la fille de qui il parle, c'est un des centres avec lesquels on vient de signer une entente, nous, avec Marque de Génération, à Longueuil. La petite fille de qui il parle, je sais exactement c'est qui. Et ça, ça passait Pierre Bruno à TVA qui faisait une entrevue. Moi, je sais exactement c'est qui. C'est un centre avec lequel on est là. Donc, quand on lit ça, ça ne peut plus juste être une réalité. Pourquoi que je dis tout ça en introduction ce soir? C'est que cette réalité-là est parmi nous aujourd'hui. La pauvreté est là aujourd'hui. Puis c'est pas juste des réalités qui sont loin. Parce que moi, cette petite fille-là, je suis capable de mettre un visage et un nom sur cette fille-là aujourd'hui. C'est plus juste des choses qui arrivent ailleurs. C'est plus juste des choses qui arrivent, mais il y a des organismes pour ça. C'est des choses qui sont concrètes et vraies aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire une chose. Que notre vision à nous, comme je disais au début, c'est d'aller là où personne ne va pour aller toucher la vie de ceux que tout le monde oublie. Puis de faire ça dans le nom de Jésus. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que ces places-là, c'est exactement là où l'Église doit être. Exactement là. Là où personne ne va, c'est là que nous, on doit être. Ce que tout le monde oublie, nous, on doit être les premiers à ne pas les oublier. Et c'est exactement ce qu'on essaie de faire avec Marque de Génération. Dietrich Bonhoeffer, qui est un pasteur théologien très reconnu dans les dernières décennies, qui a dit une phrase, moi, qui m'a marqué à vie, que j'avais lu dans sa biographie. Voici la phrase. « L'Église n'est belle que lorsqu'elle est tournée vers ceux qui n'en font pas encore partie. » Et puis pour moi, avant même Marque de Génération, pour moi, cette phrase-là m'avait impacté pour le restant de mes jours. Et Bonhoeffer, dans sa biographie, raconte une histoire. Bonhoeffer a vécu en Allemagne dans le temps où il y avait Hitler qui était là avec tous les camps de concentration. Et Bonhoeffer, dans sa biographie, raconte une histoire qui donne froid dans le dos, mais qui est tellement proche de la réalité de l'Église au Québec aujourd'hui. Il raconte qu'alors qu'il était dans une réunion à l'église, comme on fait en ce moment, l'église avait une rade de train qui passait à côté. Et alors, en plein service, il y a un train qui approchait, et quand le train passait, évidemment, ça faisait du bruit dans l'église. Et alors que le train passait, il entendait des cris. C'était pas juste le son du train, il entendait des cris sur le train. Pour se rendre compte qu'en fait, c'était un train qui était rempli de gens qui ont été faits prisonniers pour aller se faire mettre prisonniers dans les camps de concentration. Des gens qui étaient des itinérants, des gens qui étaient juste des victimes de tout ça, qu'ils ont pris pour les mettre dans les camps de concentration nazis. Et là, Bonhoeffer lui a dit, il dit au pasteur, parce que Bonhoeffer était invité à l'église, et Bonhoeffer, ce que lui a fait, il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des gens qui sont là, qui ont toutes sortes de besoins, qui crient à côté de l'église en train, puis nous, on est ici, qu'est-ce qu'on va faire? Savez-vous qu'est-ce que le pasteur a dit? Le pasteur répondit, c'est vrai, Dietrich, il faut faire quelque chose. On va monter le volume de la louange pour plus entendre les cris des gens. Et Bonhoeffer lui a dit que ça a été un des points de tournant de sa vie dans son ministère. Parce qu'au lieu de faire quelque chose, il a monté le volume des chants de louange à Dieu. Pendant qu'il y avait des gens à l'extérieur qui avaient besoin, on a monté le son ici dans l'église. Et pourquoi je dis que cette réalité-là est proche de nous aujourd'hui, parce que notre héritage de l'Église ici, c'est pas un héritage d'une Église qui était proche des gens, qui était proche des besoins, qui était là pour comme compassion, qui représentait le cœur de Jésus pour les pauvres. C'est plutôt le genre d'Église qui était là pour prendre, pour voler, pour abuser. Et même s'il n'y avait pas des camps de concentration au Québec, alors qu'il y a des cris de gens partout autour, notre tradition d'Église ici, c'est pas une Église qui était ouverte et pleine de compassion. C'est une Église qui entre guillemets, qui montait le son les dimanches matins. Et si on demandait aux gens, si on était là ce soir, si on sort ce soir après la réunion, on s'en va dans les rues et on demande aux gens, pour vous, qui est Dieu et quel est le rôle de l'Église? Je pense qu'on serait surpris des réponses. On aurait probablement des réponses qui tourneraient autour de la religiosité, des rituels, où ce qui est, on entendrait certainement parler des abus du passé, les abus que l'Église a fait, les lois, les jugements, toutes les restrictions de l'Église. Si on leur demande, c'est quoi pour vous l'Église? C'est qui Dieu? Quel est le rôle de Dieu? Ça, probablement, ça va être jugement, loi, restriction, les beaux discours du dimanche. Et je pense que rarement on va entendre parler que Dieu, c'est un Dieu de justice. Que Dieu, le Dieu à qui tu parles, c'est un Dieu de compassion. Que c'est un Dieu qui prend soin des pauvres, que l'Église est là pour prendre soin des pauvres. Ou que c'est une Église qui sert les gens, qui est là pour servir. Je pense que c'est plus rare qu'on va entendre ces réponses-là. Et laissez-moi vous dire une chose ce soir, que c'est que si notre vie chrétienne se limite à venir à l'Église les dimanches ou les samedis soirs, puis de prier avant de manger, puis de prier entre nous ici dans l'Église, on va passer à côté d'une bonne partie de ce que Jésus est venu faire. Et comme Bonhoeffer le disait, comme moi, je crois pertinemment, c'est que l'Église n'est pas ici pour que nous, on se fasse du bien entre nous. Le but premier de l'Église, ce n'est pas ça. Le but premier, c'est d'aller rejoindre les gens qui ne connaissent pas Jésus à l'extérieur et de tout faire pour les gagner à Christ. Et d'aller servir les gens que tout le monde oublie. Jésus n'allait pas dans les stades. Jésus aurait pu aller prêcher dans les plus grands stades, faire des miracles spectaculaires dans les centres-villes, faire des choses qui étaient, comme on sent, belles. Le gars, à guichet fermé, Jésus est là, Jésus fait des miracles, il prêche aux foules, mais ce n'est pas du tout ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu vers les gens qui étaient oubliés de tout le monde, qui étaient rejetés de tout le monde, vers les plus pauvres, vers ceux qui étaient les plus en marge de la société. C'est ça que Jésus est venu faire. La justice et la compassion de Dieu dans la Bible, elle se retrouve partout. J'ai quelques versets ce soir. Juste, il y en a ce soir qui avaient des doutes. On va juste faire un bref survol. Dans les psaumes, regardez dans ce psaume comment Dieu va se présenter. Le psaume 68, les versets 5 à 7. Chantez en l'honneur de Dieu, célébrez son nom. Préparez le chemin à celui qui s'avance à travers les déserts. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Jusqu'à là, ça va. Verset 6. Le père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Verset 7. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. Il délivre les prisonniers et les rend heureux. Seuls les rebelles habitent dans les lieux arides. Ça, c'est un psaume. Partout dans les psaumes, on voit Dieu qui s'identifie comme étant le père des orphelins, le défenseur des veuves. Dieu aurait pu choisir de se présenter comme étant n'importe qui, dans d'autres attributs. Il décide de s'identifier aux veuves et aux orphelins, à ceux qui sont sans foyer. Il est leur père, il est leur défenseur, qui leur donne un foyer à ceux qui sont seuls. C'est comme ça que Dieu se présente. Autre verset, dans Jacques, chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache. Et ici, quand Jacques dit la religion, ce n'est pas du tout avec la connotation de religiosité. Ça veut dire le cœur devant Dieu, le vrai cœur avec Dieu, la vraie religion, pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Ce soir, tu veux dire, comment est-ce que moi, je suis supposé vivre ma vie chrétienne? Donc, moi, je veux avoir une vie pure devant Dieu, je veux être sans tache devant Dieu. C'est un mot pour mot ta réponse ce soir. S'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et ne pas se laisser souiller par le monde. La vraie religion, ce n'est pas des bonnes prédications. La vraie religion, le vrai christianisme, ce n'est pas des bons messages, ce n'est pas de la bonne louange. Ce n'est pas des bons petits groupes. C'est de tourner vers les autres, ceux qui sont dans le besoin. C'est d'être ce cœur-là de compassion, d'aller vers les orphelins, d'être le cœur de Dieu pour ces gens-là. Va à la veuve, prendre soin. C'est ça la vraie religion. On regarde en Proverbe, deux versets. Proverbe 8, 31. Exploiter le faible, c'est insulter son créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Pour moi, ce verset-là m'a toujours impacté. Parce que ce que le verset nous dit, c'est qu'alors que tu vas faire grâce aux pauvres, alors que tu vas servir les pauvres, alors que tu vas faire des choses pour eux qu'ils ne pourront jamais te redonner, parce que c'est ça faire grâce. Quand Jésus est mort sur la croix, la grâce de Dieu, c'est qu'il nous a fait quelque chose, il nous a donné quelque chose qu'on ne pourra jamais lui redonner. On ne sera jamais capable de redonner à Dieu ce qu'il lui nous a donné. Et alors que le verset est là qui nous dit, exploiter le faible, c'est insulter son créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. Ça veut dire qu'à chaque fois que je fais grâce à quelqu'un qui est dans le besoin autour de moi, et ça, peu importe la forme, lorsqu'on lit pauvre, c'est pas nécessairement itinérant qu'on va voir tantôt. On va voir tantôt, il y a toutes sortes de formes de pauvreté. Mais à chaque fois que je fais grâce à quelqu'un qui est dans le besoin, je suis en train d'honorer mon Dieu. J'honore Dieu à chaque fois que je fais ça. Quelques chapitres plus loin, Proverbe 31:8. Regardez ce que Dieu dit. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Ouvre ta bouche. Il y a des gens dans notre société qui n'ont plus de voix, ne sont jamais entendus, parce qu'ils sont mis de côté, sont rabaissés. Et ce que Dieu est en train de dire ici, c'est à chacun d'entre nous ce soir, ouvre ta bouche pour eux. Défends-les. Sois là pour eux. Je disais tantôt qu'il y avait au-dessus de 2000 versets. On en a lu 4, je pense. On va arrêter là pour ce soir. On ne va pas lire les 2000. Mais ça nous donne une idée. C'est quoi le cœur de Dieu pour ces gens-là? Est-ce que c'est juste comme un petit peu en marge de la Bible? Il y a la vraie chose qu'il faut qu'on fasse dans l'Église. Il y a la vraie Église, les réunions, les messages, les cibles. À côté, s'il reste du temps, il est pauvre. Mais ce n'est pas du tout ça. Lorsqu'on lit notre Bible, le message est central. Ce n'est pas une suggestion. Lorsque Dieu dit « ouvre ta bouche, juge avec justice, défends-les », c'est un appel. Ce n'est pas juste si tu as le temps, si ça tente, si tu as les dons pour le faire, si tu as un cœur pour eux. Il n'y a aucune suggestion, il n'y a pas de paramètre, il n'y a pas de « on va voir si tu as le temps, on va voir si ça tente, on va voir si ton église est ouverte à ça ». Non, c'est « ouvre ta bouche pour eux ». Il n'y a pas de condition qui est reliée à ça. Même moi, quand faut être honnête ce soir, ça ne me tente pas toujours de faire ça. C'est du temps que je pourrais faire bien autre chose, là. Mais Dieu me dit, ouvre ta bouche pour eux, défends-les. Et alors qu'on le fait, c'est lui qu'on honore. La justice, ça doit faire partie de notre ADN en tant que croyant. Si on est des disciples de Jésus, la justice doit être centrale à notre cœur, à notre foi. C'est qui nous sommes. C'est quelque chose que chaque croyant devrait incarner. Le message de la Bible est révolutionnaire sur toutes les formes de pauvreté. Comme je parlais tantôt, pauvreté ne veut pas nécessairement dire itinérant. Moi, j'ai été longtemps à penser pauvreté égale itinérant. Ce n'est pas seulement ça. On retrouve dans la Bible toutes sortes de formes de pauvreté que Jésus va rencontrer, que Dieu va parler. Une pauvreté qui, oui, physique. On parle d'une pauvreté qui peut être matérielle, mais il y a une pauvreté qui peut être relationnelle également. Une pauvreté qui, ultimement, peut être spirituelle. Et de Jésus jusqu'à nous, le message de Dieu pour la justice est révolutionnaire. Je vous peins un portrait, globalement, depuis la Bible, depuis tous les enseignements de Jésus sur la justice, sur la compassion. Regardez jusqu'à nous, dans le temps, tout ce que le mouvement de Jésus a engendré comme mouvement de justice. L'abolition de l'esclavage. D'après vous, qui est à la source de ça? C'est les chrétiens qui sont à la source de ça. Le mouvement chrétien a repoussé l'esclavage dans l'Empire romain, alors que l'Empire romain était une société qui était basée sur l'esclavage. Tout le monde avait, toute la haute société avait des esclaves. C'est les croyants qui ont repoussé dans l'Empire romain l'esclavage. Jusqu'à William Wilberforce, jusqu'à aujourd'hui, Christine Kane. Tout le monde connaît Christine Kane. Avec 821, aujourd'hui en 2015, il y a encore de l'esclavage sur la planète. Mais il y a des femmes comme Christine Kane qui sont là, qui se lèvent au nom de Dieu, contre ça. Abolition de l'esclavage à travers le temps. Si on parle juste de formes d'injustice, c'est pas simplement les itinérants, parce que lorsqu'on parle, par exemple, des femmes, on regarde à travers le temps à quel point la femme avait été réduite. On regarde juste dans les Écritures à quel point la femme, on la voit comme étant moins dans la société. C'était pas égal à l'homme. Et même depuis les centaines d'années, ça a été comme ça. Ça fait, je pense qu'aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou hier, c'était l'anniversaire de que la femme a le droit de voter. Ça ne fait même pas 100 ans. Là. On est loin de ça. Mais les discours de Jésus, les enseignements de Jésus sur la femme étaient révolutionnaires pour l'époque. L'injustice que ces femmes-là vivaient, mais Jésus était avant-gardiste. C'était révolutionnaire pour ça. Justice. Jésus est venu élever les femmes. Il était là pour les remettre à leur place, sans injustice. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, lorsqu'on traverse le temps, de voir à quel point le mouvement chrétien est à la source de toutes sortes de justice. Si on parle juste de l'enseignement. L'enseignement, c'est une des meilleures façons. Rick Warren qui a fondé ce qu'il a lui appelé le Peace Plan, qui est toutes sortes d'œuvres pour ramener la justice partout dans le monde. Lui va dire, avec toutes sortes de scientifiques, que l'éducation est une des meilleures façons pour les enfants de jamais tomber dans une sphère de pauvreté. Parce que s'ils sont éduqués, ils vont être capables d'avoir des emplois, être capables d'avoir une vie, ils ne seront pas beaucoup moins portés à aller dans les problèmes de consommation. Et lorsqu'on regarde à travers le temps, toutes les grandes universités que je vais vous nommer, comme McGill, Harvard, Yale, Princeton, chacune, puis il y en a plein d'autres, chacune de ces universités ont été fondées par des missionnaires. C'est les chrétiens qui sont à la base de tout ça. C'est des pasteurs et des missionnaires qui sont à la fondation de toutes sortes d'universités qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Mais à la base, c'est des croyants. Si on parle des hôpitaux, les premiers établissements de santé organisés, c'était des missionnaires qui étaient dans des pays étrangers, qui ont décidé de faire des genres de cliniques médicales. À l'époque, ils ne savaient pas que ça s'appelait comme ça, mais c'est ça qu'ils faisaient. C'est les croyants qui sont à la base de ça. C'est des missionnaires qui ont commencé à avoir une structure organisée pour aider les gens selon leurs problèmes. Tous les principes de droit humain, égalité, respect des communautés, soutien aux immigrants, les principes de chaque humain est égal, c'est tous des principes qu'on retrouve dans notre Bible à nous. Le Dieu de justice, c'est pas simplement l'évolution de notre société qui a fait les respects des sociétés, l'égalité des hommes et des femmes. C'est personne sur cette planète Terre qui a pensé à ça. Dieu avait ça depuis le début, parce que c'est un Dieu de justice. Donc pour nous ce soir, la question n'est pas de savoir est-ce que c'est pour moi ça. Est-ce que moi je devrais prendre part à ça? Est-ce que je suis appelé à faire ça? Est-ce que je devrais m'impliquer là-dedans? La vraie question que moi je me pose, pour moi, pour vous, pour nous, la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment moi je représente ce cœur-là de Dieu pour les gens autour de moi? La vraie question que moi je devrais me poser, c'est pourquoi je suis en train de le faire plus? Plein de gens autour de moi qui sont dans le besoin, toutes sortes de gens autour de nous. Je suis persuadé qu'alors que je parle, il y a plein, vous avez en tête, dans votre quartier, dans votre ville, il y a des gens qui sont là, vous connaissez des établissements, vous connaissez des parcs, vous connaissez des centres jeunesse. Et pourquoi nous, on n'est pas là? Pourquoi l'Église n'est pas là? Moi, je n'ai pas toujours été, je ne suis pas grandi du tout avec une mentalité de servir les pauvres. Pour moi, ça a été quelque chose que Dieu est venu mettre sur mon cœur assez récemment dans ma vie. Je vous dirais, ça fait à peine 4 ans. J'ai jamais, étant ado, été porté pour faire ça. Et il y a un moment pour moi qui était un moment de déclic, qui était un voyage en Haïti. Moi, il faut savoir qu'il y a 4 ans, quand j'ai fait un voyage en Haïti, j'avais jamais sorti de l'Amérique du Nord. Donc, pour moi, la pauvreté se limitait aux itinérants à Montréal, quand j'allais à Montréal. J'avais une vision assez fermée de ce qu'était la pauvreté. Je n'avais pas une sensibilité particulière à ça. Et je revenais à Dieu. Je m'étais éloigné de Dieu pendant des années. Je revenais à Dieu. Et dans l'église, j'avais entendu parler d'un voyage missionnaire et j'avais envie d'y aller. Et puis, c'est ce qui est arrivé. Et lorsque je suis arrivé là-bas il y a 4 ans, c'est comme si Dieu avait un rendez-vous avec moi là-bas. Lorsque je suis arrivé là-bas, pour ceux qui ont déjà fait des voyages missionnaires, vous allez me comprendre. Mais la première fois que tu débarques dans un pays où il y a une pauvreté à ce niveau-là, littéralement, tu marches dans la pauvreté. Tu n'as pas besoin de la chercher. Tu n'as pas besoin de dire, ouais, c'est où qu'il y a des itinérants, c'est où qu'il y a des besoins ici. Tu marches littéralement partout autour, tu vois de la pauvreté. Tu vois des enfants. Moi, je suis allé, ils venaient d'avoir le séisme en Haïti, le tremblement de terre. Donc, des villes de tentes partout. Il y a le palais présidentiel qui est sur une photo qui est juste là, qui est complètement détruit. Juste autour, le palais, juste en face de l'autre côté de la rue, c'était des milliers de tentes en tôle, en toile, des familles qui sont là, des enfants qui ne mangent même pas. Tu marches dans la pauvreté. Pour moi, Dieu avait un rendez-vous avec moi cette semaine-là. Et alors qu'on était un soir avec toute l'équipe, on prenait un temps de prière ensemble. Et pendant qu'on priait, c'était assez libre comme moment. Puis moi, je suis juste allé lire ma Bible. Et puis, ce soir-là a changé le restant de ma vie. Je vais vous lire le texte que j'ai lu, qui était dans Isaïe 58. Je vais vous lire les versets 6 à 11, parce que je vais être parti pour faire 2 heures. 6 à 11. Voici, c'est Dieu qui parle. « Voici le genre de jeûne dans lequel je prends plaisir. » Combien veut savoir qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu? Moi, je veux savoir ce qui fait plaisir à Dieu. Voici ce qu'il dit. détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim. Encore là, ce n'est pas une suggestion. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est de la même chair que toi. Alors, la promesse qui est reliée à ça, regardez bien. Si tu fais ça, regardez la promesse. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors, tu m'appelleras et l'Éternel te répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources, il faut que ça te coûte quelque chose. Si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté du midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Sera pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Et puis moi, ça a changé le restant de ma vie. J'ai été foudroyé cette soirée-là, cette journée-là, cette semaine-là. Et en revenant, c'est comme si vraiment Dieu venait de me parler. Dieu venait d'inscrire ce chapitre-là sur mon cœur. Et lorsque je suis revenu, j'ai relu ce passage-là des dizaines de fois. Et ce qui est pour moi encore tellement qui vient confirmer ce que Dieu vient faire, c'est que là, j'ai lu les versets 6 à 11. Mais dans les versets 1 à 5, que je ne prendrai pas de temps de lire, mais je vous fais un résumé. C'est comme si le peuple faisait toutes sortes de rituels religieux. Il faisait un jeûne, il mangeait pas, puis il faisait toutes sortes de choses, puis il faisait des rituels religieux qui n'étaient aucunement du cœur, mais qui étaient dans le rituel, qui étaient dans faire l'Église. Et puis eux se disaient, mais Seigneur, on jeûne, on se fait souffrir, puis tu ne nous réponds pas. On essaie de faire des choses pour toi, on est là, on fait tout ce qu'on devrait faire. On jeûne, on est là, mais ce que Dieu leur dit à travers les 5 premiers versets, c'est que vous faites tout ça, mais vous avez perdu le cœur. C'est pas une histoire de jeûner pour jeûner. C'est pas une histoire de vous jeûner puis vous êtes méchant entre vous. Vous jeûnez puis vous critiquez. Et c'est là qu'il va dire, voici dans quoi je prends plaisir. C'est pas que vous jeûnez pour jeûner. Mais c'est une question de cœur. Et au début, ta génération est partie de ça. Et puis, moi, je suis revenu d'Haïti. Puis, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Et puis, moi, pour moi, tout a commencé au... Mes parents ont un petit bistrot. Mes parents, à l'époque, avaient un bistrot. Ils l'ont encore. Mes parents ont divorcé. Ma mère a encore le restaurant. Puis je revenais, puis c'était à l'automne, puis j'avais semé l'idée à ma mère. J'avais dit, « Maman, pourquoi on pourrait pas juste, le 24 décembre, au lieu d'être ouvert, mais on pourrait fermer le resto, puis dans le bistrot, on fait des paninis, on fait des sandwichs. Fait qu'au lieu d'être ouvert, on pourrait faire les sandwichs, mais aller les donner. » Et puis, ma mère avait dit oui, c'est correct, on va le faire. Fait que le 24 décembre qui a suivi, moi, à l'époque, j'étais juste un parmi tant d'autres à la jeunesse, j'avais aucunement... J'étais pas au collège biblique, je faisais des études d'administration. Puis à l'époque, mon pasteur jeunesse, c'était David Potier. Puis j'avais juste demandé à Dave, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire une annonce juste le 24 décembre, ceux qui veulent venir, on va faire des sandwichs, puis on va aller les distribuer à Montréal après. Puis partager un pain avec celui qui a faim, etc. Moi, c'était ma façon de commencer. Puis Dave avait dit oui, on avait fait l'annonce. Et puis pour moi, si on avait été... On avait été 20, là. Le 24 décembre, on s'entend que tout le monde achète ses cadeaux de Noël le 24 décembre. Personne n'a acheté, parce que les gars, on n'a pas acheté nos cadeaux. Ça, c'est sûr. Puis, s'il y a 20 jeunes qui viennent, ça va être comme, wow! 20 jeunes qui viennent faire des sandwichs le 24 décembre pour aller distribuer dans la rue. On s'entend que c'était pas l'activité pour attirer les foules. Puis le 24 décembre est arrivé, puis on n'a pas été 20. La journée, on n'a vraiment pas été 20. On était 62 à le faire. Puis pour moi, c'est comme si Dieu venait me confirmer. Puis tout ce que je lisais dans Ésaïe 58, que si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu prends tes propres ressources et tu les donnes à ceux qui n'en ont pas, alors ma gloire va te précéder. Tu vas appeler mon nom puis je vais être là, je vais te répondre. Et puis moi, je n'ai pas seulement lu ça, je l'ai vécu. Et puis après, on a mis sur pied Marc ta génération parce que le 24 décembre, c'était rien en fait. C'était juste une activité spontanée. Et Marc ta génération a suivi le mois de février d'après. Et puis on a eu le premier groupe qu'on a vu de 20 personnes. Aujourd'hui, on est à la DPJ. Et Dieu nous a donné faveur, mais pas parce qu'on est meilleur que tout le monde, pas parce qu'on est... Honnêtement, on n'est pas meilleur que personne. Mais parce que je crois qu'on touche à une corde du cœur de Dieu qui se prend plaisir à bénir. Et l'année dernière, avec la DPJ, on a rénové deux centres. Déjà que c'était un miracle pour nous d'avoir un partenariat avec la DPJ, sachant qu'on est l'Église. On a rénové des centres. Et pour Noël, ils nous ont invité à un souper que les jeunes de la DPJ avaient tout préparé. C'était pas le meilleur souper de Noël côté qualité de nourriture que j'ai mangé. Mais c'était vraiment touchant de voir les jeunes qui avaient fait la bouffe et tout ça, puis qu'ils nous recevaient. Puis on oubliait que c'était moins bon. Mais à la fin, ces jeunes-là ont tous, à tour de rôle, juste mentionné, il y avait comme chacun une petite page avec des notes, puis ils nous partageaient à quel point, juste le fait qu'on était là pour eux, qu'on les aimait, puis je vous dis, il n'y a rien de magique, j'ai aucun background d'intervenant social, etc. Il y a plein de jeunes de Marc ta génération non plus. Il y en a que oui, il y en a que non. Puis on est juste là à les aimer semaine après semaine. Puis ils savent qu'on est croyants. Puis ils avaient tous pris à Noël le temps de dire un petit mot. Je veux dire, on était toute la gang de Marc ta génération, on s'entendait tous pour ne pas broyer dans leur face. C'était très touchant. Et puis la photo qui était à l'écran en ce moment, c'est que c'était la surprise qu'ils nous ont présenté une plaque où ils voulaient consacrer une des salles de la DPJ à Marc ta génération. Et puis pour moi, depuis 3 ans, Dieu n'arrête pas de faire tomber les préjugés. Que parce qu'on est l'Église, on ne peut pas rien faire. Parce qu'on est l'Église, les portes vont rester fermées. Il faut qu'on trouve des façons de... On est upfront avec la DPJ qu'on est l'Église. Puis la DPJ nous ont fait une plaque, une salle dans leur locaux qui s'appelle Marc ta génération, puis on est l'Église. Et puis, d'année en année, Dieu fait juste tomber des barrières. Et moi, je crois que le meilleur est devant nous à chaque fois, chaque année. À chaque année, j'ai vu Dieu ouvrir des portes qu'on n'aurait jamais pensé. De l'année dernière, avec la DPJ, d'une vingtaine de personnes à notre première activité officielle quand on s'en allait dans la rue, après Noël qu'on avait fait l'événement. D'une vingtaine à plus d'une centaine. L'année dernière, on a fait une activité avec 210 jeunes impliqués en une journée avec Marc ta génération. Un partenariat avec la DPJ. Et cette année, une des choses qui surpasse tout ce qu'on aurait pu penser, puis je vais clôturer bientôt, l'aspect le plus important de notre vision, c'est qu'on veut avoir accès aux jeunes. On veut parler avec les jeunes. On veut être là pour eux. On veut leur communiquer quelque chose pendant qu'ils sont dans les centres jeunesse. Mais notre vision, ce n'est pas simplement d'avoir accès avec eux une fois par semaine pendant qu'ils sont dans les centres. Mais c'est qu'une fois qu'ils vont sortir, parce qu'à 18 ans, ces jeunes-là sont mis dehors des centres. Mais c'est que lorsqu'ils vont sortir, c'est que ces jeunes-là viennent nous voir nous. Parce qu'on aurait créé un lien. On aurait été là pour eux alors que personne n'était là. Et que lorsqu'ils vont sortir, nous, on va être là pour eux. L'Église. Et depuis l'année dernière, lorsqu'on a notre vision des DPJ, on priait déjà pour avoir une ressource pour eux après. On se dit, il faut qu'on ait quelque chose. Il faut qu'on ait un bâtiment. Il faut qu'on ait une place pour que les jeunes, quand ils vont sortir à 18 ans, peuvent venir nous voir. Et là, dans ce centre-là, on peut avoir toutes sortes de locaux pour eux. Parce qu'on prend du temps, on les aide à se trouver des emplois, à tout ça. On prie avec eux, on est là, on leur explique la Bible. Une place pour eux quand ils sortent. Parce que là, on aurait contact avec eux, mais c'est à tâtons. Là. On est là un petit peu par petit peu. Mais quand ils ont 18 ans après, ils peuvent venir nous voir autant qu'ils veulent. Il faut qu'on ait une place. Et ça, c'était notre vision depuis le départ, mais on n'a aucun moyen pour faire ça. Et depuis cette année, avec l'Église, Dieu va nous surprendre. Je vous dis ça, puis je sais pas, j'ai hâte de voir ce que ça va être l'année prochaine, parce que ça va être dur à battre de cette année. Mais en début d'année, l'Église, puis tu peux m'ouvrir la prochaine photo, on a acheté un bâtiment. Le prix qu'on a payé de ce bâtiment-là, c'est même pas la moitié de la valeur au livre. Un miracle de Dieu, avec un timing parfait. Et puis dans ce centre-là, la seule et unique fonction de ce centre-là, c'est d'accueillir les jeunes de la DPJ de Longueuil. Et d'année en année, de notre petite gang de 20 personnes qui allaient dans la rue, après ça, on est une centaine, on était 200 l'année dernière, la DPJ, les portes ouvertes, 2 centres, cette année, 6 centres, un projet de terrain avec investissement. Cette année, avec l'Église, on a acheté un bâtiment, parce que la seule et unique fonction va être de rejoindre ces jeunes-là. Une fois qu'ils vont sortir de la DPJ, de venir. Et au-delà du bâtiment, les bâtiments sont des outils. le changement dans le cœur, l'impact dans le cœur, ce que Jésus peut faire pour eux, ça dépasse le bâtiment. Le bâtiment reste un outil. Mais c'est un outil qui va nous aider énormément. Et laissez-moi vous dire une chose. Moi, je vais consacrer ma vie à faire ça. Parce que là où personne est dans notre société, les gens qui sont mis de côté. Moi, ce soir, je vous parle beaucoup de la DPJ parce que c'est ça, Martin Génération. Mais tous les endroits de notre société où ce que les gens sont mis de côté, où ce qu'il y a de la pauvreté, les familles monoparentales, où ce que notre société est vieillissante plus que jamais en ce moment. Dans 10 ans, on va avoir des énormes défis avec les gens du troisième âge. Là où ce que tout le monde oublie les gens, l'Église doit être là. Et nous, c'est là qu'on doit être. Chacun d'entre nous, selon notre mesure. Mais c'est là qu'on doit être. Je vais prier pour vous en concluant ce soir. Je vais inviter Dom à me rejoindre dans quelques instants. J'aimerais juste ça, si on peut ensemble, juste baisser la tête ensemble. Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu c'est un Dieu qui nous a fait le cadeau qu'on n'aurait pu jamais penser. Tu as tout donné pour nous. Tu as été compatissant envers nous. Tu as eu de la grâce envers nous. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu de justice. Partout dans ta parole, Seigneur, on voit à quel point tu as à cœur ce que notre société met de côté. Et Seigneur, je veux te prier pour chaque jeune qui est dans ce lieu ce soir. Je veux te prier pour chacun de nous. Seigneur, que tu puisses renouveler dans notre cœur ton cœur à toi. Que tu puisses nous donner ton cœur à toi pour les gens qui sont oubliés dans notre société, Seigneur. Seigneur, tu vois dans tous les domaines, dans toutes les villes qui sont représentées ici, tu vois exactement qu'est-ce que sont les besoins, Seigneur, que ce soit la DPJ, les femmes seules, les gens, les itinérants, Seigneur, tu vois les besoins. Mais Seigneur, je te prie que nous puissions être ton Église. Que Seigneur, alors qu'on va faire les actions, alors qu'on va donner de la nourriture, lorsqu'on va aider, mais Seigneur, que tu puisses nous donner ton cœur, tes yeux à toi, pour qu'on puisse les voir. Seigneur, je te prie pour chaque jeune ce soir, merci pour l'œuvre que tu vas faire d'avance, Seigneur, avec chacun d'eux. Seigneur, il y a un potentiel exceptionnel lorsqu'on commence à juste se lever ensemble pour te représenter dans notre vie. Merci pour ce que tu fais. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Amen. Merci, JP. Je pense qu'on a bien senti ta passion ce soir. Si tu vis vraiment le message que tu nous as apporté. Puis moi j'espère, j'écoute ça, c'est drôle, Ésaïe 58, c'est depuis quelques années mon verset préféré, mais je vois qu'il y a besoin de faire du chemin dans mon cœur. Mais j'écoute ça ce soir, puis j'espère que les gens qui t'écoutent puissent aussi rêver, tu sais, puis voir que pour Dieu, on peut faire de grandes choses, selon les dons puis les désirs que Dieu nous donne. Donc, j'ai quelques questions pour toi, peut-être pour peut-être clarifier ou venir complémenter le message. Tu as répondu à ma première question. Je pense que tu nous as parlé pas mal de ton cœur, de ta vision pendant le message. Fait que comment est-ce que tu connectes le salut, l'évangile à la justice sociale?
C'est certain que si on fait des choses, si on fait des actions pour les gens dans le besoin, puis qu'en fait on fait rien de différent des organismes qui sont séculiers, c'est un coup d'épée dans l'eau pour l'Évangile. Mais par exemple, de l'autre côté, ce qui est arrivé, c'est que souvent, on a réduit l'évangélisation à présenter le plan du salut en 5 étapes. Pour nous, c'était important que notre identité aux yeux de notre société soit qu'on représente Dieu, on est l'Église. Donc, on n'est pas un organisme, on n'est pas... On choisit intentionnellement, puis selon ce que la DPJ nous demande aussi, dans notre contexte à nous, de ne pas parler de Dieu dans les locaux de la DPJ. Par contre, les jeunes savent qu'on est chrétien. Par exemple, l'année dernière, le premier centre qu'on a rénové, on avait bien averti nos bénévoles, on demande de ne pas parler de Dieu. Ils savent qu'on est croyant, ils savent que... Mais déjà, eux, qu'il y a des gens qui viennent dans leurs locaux, ils ne voient jamais ça. Puis tous les bénévoles ont été super. Personne n'avait parlé de Dieu. Puis je peux comprendre à première vue que ça fait bizarre. Sauf que moi, le lendemain, c'était un samedi, toute la journée, rénover, peinture, un changement de meubles, etc. Le lendemain, moi, je retourne au centre juste voir si tout le monde aimait toujours ça, si tout était correct. Puis je pensais rester là 5 minutes. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des intervenants puis la directrice du centre qui était là. Puis les jeunes étaient en train de dîner. Puis la directrice me demande devant tout le monde, c'est quoi votre affaire, là, l'Église? Là? Comment ça marche, ça? me suis pris une chaise. Finalement, je suis resté comme une heure là-bas à parler de qu'est-ce qu'on croit, comment ça marche, y a-t-il des choses pour les jeunes, y a-t-il des... Puis de, on a souvent réduit l'évangélisation à être obligé de communiquer verbalement quelque chose tout de suite. Puis, en fait, ce que lorsque moi je lis les évangiles, lorsque je lis ma Bible, c'est que Dieu ne demande pas nécessairement ça, toujours. C'est pas la première chose, tu vois un pauvre, faut que tu parles de Dieu. Non, commence, il y a faim, monsieur, on peut-tu lui donner quelque chose? Puis lorsque lui va, tu vas le faire ça, moi, à chaque fois, peu importe les activités qu'on a faites, j'ai toujours vu que parce qu'on aime les gens, parce qu'on les sert, les gens ne comprennent pas pourquoi on fait ça. Et systématiquement, les gens nous demandent pourquoi. Donc, on n'a jamais eu à être upfront avec Dieu parce que les gens nous demandent tout le temps pourquoi on fait ça. Puis nous, ça nous fait évidemment un grand plaisir de le dire à chaque fois. Puis ça fait en sorte qu'on finit par en parler de toute façon, mais pas upfront. Puis je pense que c'est François d'Assise qui disait, prêche l'Évangile à tous les jours, de toutes les façons que tu peux. Si c'est nécessaire, utilise des mots. Puis cette phrase-là, moi, c'est une phrase que j'aime beaucoup. Parce que parler de Dieu, prêcher, c'est pas juste par nos paroles. On peut prêcher d'une façon souvent plus puissante par ce qu'on va faire pour les gens, la façon qu'on va les aimer, la façon qu'on va être là quand personne n'est là. Ça parle plus qu'une belle phrase de chrétien toute faite. Souvent. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fait. Puis évidemment, comme le centre que je présentais à la fin, c'est une place là, qui est vraiment plus neutre, dans le sens que la DPJ, on se plie à leurs exigences, mais dans le centre, on va parler de Dieu autant qu'on veut. Donc, on est là-dedans.
Ça me fait penser, comme ce que tu dis, c'est Dieu a fait quelque chose pour nous d'assez incroyable. Il a envoyé son fils, il est mort pour nous. Fait que c'est comme quand je rentre en relation avec Dieu, mais là, puis je vois tout ce que Dieu a fait pour moi, mais là, je l'aime, j'ai le goût d'être en relation avec lui, j'ai le goût de le servir. Ben, j'imagine pour tous les jeunes qui vont voir, ou même les gens de la DPJ, c'est comme vous gagnez la crédibilité juste par l'amour que vous donnez, puis vous pouvez parler le message, parce que le message de l'Évangile est quand même, il y a quand même un message à verbaliser. Là,
exact, comme... c'est ça. Puis c'est le message de l'Évangile, ça demeure un mystère quand même, c'est quand même, mais les gens comprennent tellement pas pourquoi on investit autant de temps et d'argent et de sans rien demander en retour. En fait, c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus a tout donné gratuitement. Et c'est une partie qu'on ne comprend pas. C'est ça la grâce. Puis de représenter Dieu, pour nous, c'est de faire ça à notre échelle, à nous. C'est de donner le plus qu'on peut de nous, de financiers, des ressources humaines, sans rien demander en retour. Et c'est tellement contre-culturel puis contre-logique que les gens finissent toujours par poser des questions. Puis c'est de cette façon-là qu'on réussit à avoir un contact avec ces gens-là.
J'ai déjà entendu dire que notre amour pour Dieu puis notre compréhension de la grâce de Dieu augmente quand on prend soin des autres. Est-ce que tu as remarqué ça? Puis comment tu as remarqué ça?
Je pourrais pas dire mieux que ce que tu as dit, dans le sens que à toutes les fois, c'est dur à exprimer, il faut le vivre, mais à chaque fois que, par exemple, au début, on allait dans la rue avec les itinérants, à chaque fois que tu es là, tu donnes un plat de nourriture, tu donnes un café, tu donnes whatever, puis la personne est là, puis tu réussis à parler avec lui, tout ça. Moi, c'est en faisant ce genre de choses-là que je me sens le plus comme, je pense que c'est ça que Jésus ferait. Si Jésus était ici physiquement avec nous aujourd'hui, je pense que c'est ça qu'il ferait. Dans le sens que c'est quand je suis à DPJ, puis il y a un jeune qui est là, qui tu sais qu'il y a toutes sortes de troubles de son passé, d'abus, etc., puis tu parles avec lui, puis tu sais que personne d'autre fait ça dans sa vie. Tu es le seul qui est là, qui n'est pas payé pour être là. Tu es le seul qui est là parce que tu l'aimes. Quand tu fais ce genre de choses-là, moi, dans mon cœur, je me dis, je pense que c'est exactement ça que Jésus serait en train de faire. Puis ça, il faut le vivre. Dans le sens que moi, ça n'a jamais été mon mode de vie jusqu'à mon voyage en Haïti, qui était un point tournant. Mais avant ça, je ne pouvais pas comprendre ça. Mais depuis que je m'investis dans ces cercles-là, de TPG, la rue, tout ça, c'est exactement... Je pense que c'est ça que Jésus ferait, la majeure partie de son temps, en tout cas. Il prêcherait une fois de temps en temps quand même, mais je pense qu'entre ses prêches, il serait en train d'aller servir les pauvres.
Cool. Ben, avant de finir, puis là, tu nous as vraiment bien encouragés ce soir, puis en tout cas, moi, ça amène beaucoup de réflexion, je ne sais pas pour les gens ici. En passant, JP, s'il y en a qui veulent poser des questions tantôt, on va avoir un temps pour la collation, vous pouvez aller le voir, mais... Tu sais, souvent, puis on enseigne ça même aux ados et tout, qu'on a un potentiel énorme avec Dieu, qu'on peut faire des grandes choses. Puis, tu sais, j'écoutais ce que vous disiez ce soir, puis pour moi, j'étais encore dans, on dirait que dans ma pensée, c'est encore, tu sais, la DPJ, c'est impossible. Mm-hmm. Tu sais, tout ce qu'on a entendu ces temps-ci, puis là, tu sais, ça l'arrive, là, à Longueuil, mm-hmm. puis, fait que, qu'est-ce que tu dis, puis tu l'as dit dans ton message, mais qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a un cœur qui brûle, mais qui n'est pas capable d'aller plus loin que qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, tu sais?
C'est certain qu'il y a une partie, je me souviens d'un week-end particulier où je me trouvais complètement fou. On avait notre vision pour la DPJ. Okay? Je me suis retrouvé à prêcher un vendredi soir à Impact. Puis avec toute l'équipe, c'était tellement sur notre cœur que c'était la DPJ, puis c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. On avait, comme tu dis, ton cœur brûle, puis tu le sais que c'est ça. Puis on avait besoin de le communiquer aux jeunes. Puis là, c'est moi qui apportais le message à Impact, et puis on n'avait aucune confirmation au niveau de la DPJ. Puis là, ce que je dis là, c'est juste pour... Parce que la foi, il faut la vivre. Il ne faut pas juste la chanter puis la lire. Il faut la vivre. Puis on s'est dit, mais notre pas de foi à nous, ça va être d'annoncer aux jeunes qu'on s'en va avec la DPJ sans avoir le feu vert de la DPJ encore. Puis on rencontrait la DPJ la semaine suivante pour voir s'ils nous ouvraient la porte ou pas. Puis on s'est dit, on croit tellement que Dieu veut qu'on fasse ça qu'on va ce vendredi soir annoncer que c'est ça qu'on va faire. Fait que pendant le message, on est 5 personnes, Marthe Génération, il y avait 5 personnes qui suaient partout. Parce qu'on est en train d'annoncer quelque chose qu'on ne savait pas si ça allait marcher. Mais ce vendredi soir-là, on a prié, on était tous en ligne. C'est ça qu'on fait. On croit que c'est ça. Puis j'ai fait un message là-dessus. Puis on était 5 à savoir qu'on ne sait pas si ça va marcher. Tout le monde était, ouais, c'est malade, mais nous, on ne savait pas. Puis on a rencontré la grande directrice de la Montérégie. Puis ça a été comme si rien n'était. C'était comme... Parfait, venez, vous pouvez commencer quand? On connaissait, tu sais, tout l'historique de DPJ. Tu sais, il y a d'autres églises qui avaient essayé, on s'était fait dire, essayez autre chose, ça ne marchera pas. Tu sais. Puis nous, ça a juste été comme, pouf, comme ça, un meeting, c'était fini. Puis depuis, on est là, tu sais, mais je crois qu'il y a une portion de foi qu'il faut qu'on vive, qu'on ne vit pas assez. Dans le sens qu'on la chante, on la lit, on en parle, mais on ne la vit pas. Comme je parlais du terrain, le projet de 10 000 $ là, on est loin d'avoir ramassé ça encore. Je ne sais pas comment on va ramasser 10 000 jusqu'en septembre. Mais c'est ça aussi, dans le sens que Dieu nous appelle pas à vivre une vie. La foi est complètement hors de notre zone de confort, complètement. Puis si on reste dans notre zone de confort, on ne pourra pas vivre des expériences de foi parce que tout est calculé, tout est calculable. Donc il faut qu'on fasse assez confiance à Dieu pour, si Seigneur, tu nous appelles à faire ça, on va y aller jusqu'au bout. Puis on va le faire sans savoir exactement comment on va y arriver. Mais... Puis jusqu'à maintenant, en 3 ans, on y est arrivé. Tu sais, Dieu est fidèle. Mais il y a une portion de foi qu'il faut qu'on le vive. Au-delà d'en parler, je dirais même au-delà de le prier, il vient un temps où il faut le faire. Tu sais, puis la Bible est remplie d'hommes et de femmes qui ont juste... on pense à Abraham tout de suite. Quand Dieu l'a appelé à quitter, bien, tu vas quitter sans savoir où tu vas. Puis Abraham avait le choix. Là. Il aurait pu prier 10 ans de temps, là, mais Dieu dit, je veux que tu le fasses, je veux pas que tu me le prie, je le sais, moi, ce que je veux pour toi, je veux que tu y ailles sans savoir. Puis il fallait qu'il le fasse. Puis là, tu sais, comme tu penses à Moïse, à Joseph, etc., là, Paul, tu sais, il y a une portion de foi qu'il faut le vivre, puis il n'y a pas d'autre moyen de le vivre. Fait que, je dirais, hors de la zone de confort.
Mais merci beaucoup, JP.
Ouais, merci à toi.
C'est vraiment cool que tu viennes ce soir.
Merci. Hop.